Bonjour, bonjour. Yves au micro-micro, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 24 dans le second vent, qui pour cette fois, dérogera à sa tradition. Donc, je ne vous rappellerai pas ou je ne vous apprendrai pas que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film et je ne vous dirai pas que la musique de film est cet art aussi particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent. Oups, me serais-je trompé? Ce jour, dans 24 notes secondes, nous allons évoquer la carrière d'un compositeur italien né le 20 août 1937 dans la belle ville de Rome et mort dans cette même ville le 1er octobre 2018, comme ça, pas de suspense, un compositeur italien nommé Stelvio Cipriani, alors certes beaucoup moins connu que ses collègues Nino Rota, Ennio Morricone et quelques autres, mais qui, comme le premier cité, me semble-t-il, aura étudié le piano et l'harmonie à l'Académie nationale Santa Cecilia de Rome, justement, avant de devenir, au début des années 60, donc tout jeune, le pianiste de nombreux chanteurs très connus à l'époque, en tout cas en Italie, comme Rita Pavone ou Tony Renis. Rassurez-vous, je ne les connais pas non plus. Ensuite, l'homme part aux États-Unis, où il étudie notamment le jazz avec rien moins que Dave Brubeck, ce qui fait que, entre la culture classique acquise à l'Académie nationale, la culture variétoche acquise auprès des chanteurs illustrissimes déjà cités et la culture jazz acquise auprès de Dave Brubeck et quelques autres, il était tout à fait armé pour faire, à partir de 1966, ses débuts au cinéma et pour avoir, jusqu'à la fin des années 80, donc en gros une bonne vingtaine d'années, pour avoir accompagné tous les sous-genres du cinéma italien qu'on aime et qu'on va égrener au fil de l'émission de ce jour à lui consacré. Et on va commencer, the last but not the least, par le western spaghetti, qui fut certainement l'un des sous-genres les plus réputés, illustré notamment par Ennio Morricone déjà cité, et qui dans les années 60, conquit les écrans du monde entier avec Sergio Leone, bien sûr, avec quelques autres, mais aussi avec quelques tâcherons, il faut bien le reconnaître, et des films un peu sous-genres, tournés d'ailleurs, je vous le rappelle, plus souvent en Espagne qu'en Italie, même si ça s'appelait Western Spaghetti, les lieux de tournage étaient plutôt espagnol qu'italien. Ça ressemblait plus au désert américain, il faut croire. On va écouter un premier extrait. Alors, vous me pardonnerez à l'avance mon inimitable accent italien, mais je ne peux pas non plus m'en passer, car l'italien, c'est quand même la plus belle langue du monde. Après, vous pouvez téléphoner en standard pour dire que c'est pas vrai. Mais moi, je trouve que c'est la plus belle langue du monde. Donc, on va écouter un extrait de Un uomo, un cavallo, un pistola, una pistola. Una pistola, traduit en français fort justement par un homme, un cheval et un pistolet, vous l'aviez peut-être deviné de mon phrasé, un film réalisé par Luigi Vanzi, sorti en 1967. Alors, en tout cas, de moi, les acteurs ne sont pas connus. Tony Anthony, ça sent le pseudonyme quand même. Tony Anthony, Dan Vadis et Marco Guglielmi avec une histoire assez classique. Il y avait l'étranger, il y avait le prêcheur. Bref, il y avait tous les ingrédients d'un western spaghetti de base et qui était lui-même la suite de Un dollar entre les dents. J'adore les titres des western spaghetti et qui précédait Le cavalier et le samouraï et Pendez-le par les pieds. Comme j'aimerais voir tout ça. Allez, on va aller chercher sur Internet si ça ne se trouve pas. Mais avant, on va écouter un extrait de la bande originale signée, vous l'avez compris, Stelvio Cipriani dans 24 notes secondes. Thank you. Eh bien, ma foi, quand on reste dans le genre, tout cela se tient, c'est même plutôt bienvenu. On a envie d'être à cheval et à la bride abattue là, pour poursuivre les bandits qui d'ailleurs veulent s'emparer d'une diligence qui serait en or massif. Vraiment, il y a des scénaristes qui inventent tout et n'importe quoi. Un extrait signé Stelvio, Cipriani, de la bande originale d'Un homme, un cheval et un pistolet, un des nombreux, innombrables western spaghetti tourné dans les années 60, en l'espèce celui de 1967. Alors, je vous ai distillé quelques titres de Western Spaghetti avant. Il y a le titre apparemment russe de Un homme, un cheval, un pistolet. Alors, c'est le titre russe, mais je l'ai en anglais. C'est le charme, je dirais, de ma petite fiche. Ça dit « Shoot first, laugh last ». Tu tires d'abord, tu rigoles ensuite. Alors, celui-là, il faut le tourner absolument. Tu tires d'abord, tu rigoles ensuite. On va rester avec Stelvio Cipriani et on va essayer maintenant le genre du film d'épouvante. Là encore, dans les années 70, eh bien, les Italiens furent très très bons. Il n'y a pas besoin de citer Lucio Fulci, Mario Bava et quelques autres qui sont quand même des maîtres du genre. Alors, ce n'est pas forcément le cas de Luciano Ercoli, mais en tout cas, on va écouter un extrait de la bande originale de Nuit d'amour et d'épouvante. C'est pas beau comme ça ? Alors, ça, c'est le titre en français, mais le titre en italien, il est encore plus beau puisque ça dit, je vous le cite verbatim, et après, je vous le traduis, « La morte cammina con i tacchi alti ». À savoir, la mort marche à talons hauts. Non, mais quand même, il y a des gens qui ont de l'imagination et de l'invention. La mort marche à talons hauts. Bonjour, je voudrais deux places, s'il vous plaît. Voilà, c'était le bon temps des années 70. Alors, les acteurs, les actrices, c'est pareil. Frank Wolf et Nieves Navarro sont dans les rôles principaux, mais je ne garantis pas qu'ils le soient sous leur vrai nom. On va écouter un extrait de cette bande originale Nuit d'amour et d'épouvante, mais dans 24 notes secondes. Tout à fait le genre de musique pour se déhancher stupidement dans un jean très très moulant avec une fille qui à l'époque était en jupe, hein, je suis désolé. Parfois plutôt courte, un extrait de la bande originale de Nuit d'amour et d'épouvante, un film de Luciano Ercoli sorti en 1971, une musique de Stelvio Cipriani que je vais contribuer à réhabiliter, il me semble, dans cette émission, parce que quand même, c'est de la musique sympa, évidemment, ça a le côté variétoche que j'ai évoqué au début de l'émission, mais ma voix, c'est quand même plutôt bienvenu, et on va rester avec Stelvio, allez, appelons-le Stelvio, pour un extrait, cette fois, d'un film d'horreur qui se situait dans la lignée de Rosemary's Baby, un film de Roman Polanski avec Mia Farrow et John Cassavetes, qui, quelques années plus tôt, eh bien, avait relancé l'intérêt pour le diable et ses enfants. Et c'est le cas d'Emily, l'enfant des ténèbres. Le titre me semble assez explicite en italien. comment pourrais-je l'oublier, Il Medaglione Insanguinato, le médaillon ensanglé, ensanglanté, ça fait roman de Gaston Leroux du 19e siècle, un film donc de Massimo Dallamano, mais qui était un film, on va dire, américain, puisque dans les rôles principaux, on retrouvait Richard Johnson, apparemment, sous son vrai nom, et... j'en suis le premier étonné, Joanna Cassidy, qu'on verra ensuite faire une petite carrière, notamment dans un film très méconnu, mais qui est un chef-d'œuvre du cinéma politique américain. Ils sont bien rares. Ça s'appelait Under Fire. C'était Roger Spottiswoode qui le réalisait. Il y avait, sauf erreur, Gene Hackman, Jean-Louis Trintignant, Ed Harris, excusez du peu, dans les rôles masculins principaux. Et en plus, il y avait Jerry Goldsmith à la musique. Donc, c'est vous dire. On va rester quand même avec Emily, l'enfant des ténèbres, qui est donc une énième variation sur l'enfant du diable. C'était en 1975. En 1976, puisque nous sommes sur Jerry, sortira La Malédiction, The Omen en français, un film de Richard Donner, qui sera le seul Oscar de Jerry Goldsmith. Ave Satani. Bon, allez, on va pas le faire ce jour. On va rester avec Stelvio. Allez, un extrait de Emily, l'enfant des ténèbres, dans 24 notes secondes. Certains pencheraient pour l'influence de New Morricone. Moi, je serais plutôt Pino Donaggio, période Brian De Palma. Un extrait de la bande originale signée de notre ami Stelvio. Stelvio Cipriani de Emily, l'enfant des ténèbres. Un film tourné en 1975. Une des multiples variations sur le thème de l'enfant du diable et l'occasion de montrer combien le cinéma italien a été un inépuisable recycleur, en fait, de films sortis ailleurs. Il n'est pas un grand succès du cinéma américain qui n'ait été... exploité de façon parfois avec un budget un peu moindre, il faut le reconnaître, allez, on dira dire 10 fois moins de budget, avec un film italien, on se souviendra des sous-imitations de Star Wars, et on se souviendra aussi des sous-imitations de Jaws, alias Les Dents de la Mer, un film sorti, je crois aussi d'ailleurs, en 1975, et quand je vous dirai que le film dont on va écouter maintenant un extrait s'appelle Tentacule, bah vous aurez tout de suite compris qu'il lorgne éhontément, mais alors là, vraiment éhontément, sur le succès des Dents de la Mer, avec cette fois une pieuvre géante quelque part au large d'une petite ville de la côte ouest américaine avec un maire qui ne veut pas interdire le tourisme. Enfin bref, tout ça c'est du copier-coller éhonté. Et plus éhonté encore, eh bien, les principaux rôles sont tenus par de grandes vedettes américaines, sans doute en mal de payer leurs impôts, puisque quand on réussit à réunir John Huston, Shelley Winters et Henry Fonda dans un film qui vraiment... j'en suis bien désolé, puisqu'on va écouter un extrait de sa bande originale. là, n'est vraiment quand même pas une très très grande production, ben, ma foi, c'est qu'on a des impôts à payer, et c'était bien le cas. Alors, il est aussi inutile de vous dire que la pieuvre en question, on doit la voir... Enfin, on la voit beaucoup, mais c'est toujours la même. Donc, à mon avis, il y a dû avoir une dizaine de plans d'effets spéciaux sur plus d'1h30 de film. Bref, on se moque un peu du monde. Et dans ces cas-là, eh bien, dans ces cas-là, c'est la musique, souvent, qui vient sauver la chose. Je vais vous laisser juste de savoir si c'était le cas. Alors, ça s'appelait Tentacoli en italien. Je sais qu'au standard, on me demande, mais c'était quoi le titre italien? Ben, le titre italien, c'est Tentacoli, donc je suis désolé. Je ne l'ai pas fait. On écoute un extrait, donc, de Tentacoli dans 24 notes secondes. Je dois le reconnaître, on est très très loin de la bande originale de John Williams pour Les Dents de la Mer, mais j'adore les effets Flipper le Dauphin. Un extrait de la bande originale de Tentacule signé Stelvio Cipriani, un film tourné en 1977. Et je pense que j'avais oublié de vous donner le nom du réalisateur, Ovidio G. Assonitis, ma foi. C'est, comme dirait l'autre, c'est pas de sa faute non plus. Donc, un film peut-être pas gardé dans les mémoires. On va rester dans le genre, sous-genre, Les Dents de la Mer, avec quelque chose d'un peu plus intéressant. Un film tourné en 1979 par Sergio Martino, qui fut lui aussi un grand pourvoyeur de films d'aventure et autres, avec, il me semble, beaucoup de cannibales aussi dans le genre. Le Grand Alligator. Bon, donc on passe de la pieuvre à l'alligator, et on passe cette fois dans une région reculée d'Afrique, bon, qui a dû être tournée près d'un club dont je vous cacherai évidemment le nom. Dans les rôles principaux, eh bien, il y a Mel Ferrer, qui fut dans les années 60 et 70 un grand acteur, mais qui dans les années 80 a sans doute lui aussi été rattrapé par par les impôts, comme Henry Fonda et John Huston cités plus tard. Et puis, on retrouve la délicieuse Barbara Bach. Alors, peut-être ça ne vous dit rien, mais Barbara Bach, ce fut en 1977 la James Bond Girl d'un James Bond avec Roger Moore, mais plutôt bienvenue. Ça s'appelait L'espion qui m'aimait. Elle y jouait une espionne russe, forcément. Elle s'appelle Barbara Bach et elle ressemble à une russe comme moi, un peul, on va dire, quelque chose de ce genre. Et ensuite, Barbara Bach fera une toute petite carrière, puisqu'en fait, elle va rencontrer l'homme de sa vie. Et l'homme de sa vie, c'est Ringo Starr, un ex des Beatles. Donc, quand vous vous mariez avec Ringo Starr, et si vous le souhaitez, vous n'avez plus vraiment de soucis à vous faire sur le reste de votre vie. Et apparemment, des derniers échos que j'ai pu avoir, l'un comme l'autre sont toujours de ce monde. Donc, Barbara, on t'aime, on te salue, et on va écouter un extrait de la bande originale du Grand Alligator, signé donc de Stelvio. Allez, Stelvio Cipriani dans 24 notes secondes. Des rythmes africains, ou supposait-elle, pour un extrait de la bande originale du Grand Alligator, un film de Sergio Martino sorti en 1979. Alors, puisqu'évidemment, on me l'a demandé en italien. Eh bien, en italien, ça s'appelle Il Fiume del Grande Caimano, le fleuve du Grand Caïman, ou quelque chose de ce genre. Donc, faut reconnaître que par rapport à Tentacule, c'était un chef-d'œuvre. On voyait quand même une sorte de simili alligator en plastique qui dévorait bien sûr d'abord des Africains. Ça, c'était encore dans les années 80. Barbara Bach, je dis vulgache, mais vous l'auriez deviné, elle s'en sortait, elle, avec un bel âtre dénommé Claudio Cassinelli. Et on va terminer notre émission concernant Stelvio Cipriani. Alors, on n'aura pas écouté ce qui fut pourtant son plus grand succès, j'en ai bien honte, mais j'ai préféré rester dans les sous-genres italiens. La bande originale d'un film tourné en 1970, ça s'appelait Adieu à Venise, un film d'Enrico Maria Salerno. Et donc, le thème principal de ce film qui s'appelle Anonimo, le thème principal s'appelle Anonimo Veneziano. Eh bien, ça a été le hit de la carrière riche, variée et intéressante, comme on vient de le voir, de Stelvio Cipriani. Et on va se quitter, en écoutant la bande originale d'un film de James Cameron. Non, si, je vous le maintiens. Le réalisateur de Titanic, d'Avatar, de Terminator et de ce chef-d'œuvre schizophrénique que représente The Abyss. Eh bien, le réalisateur James Cameron, il avait débuté en tant que plus ou moins réalisateur sur un film tourné en 1981 par le dénommé Ovidio G. Assonitis, déjà cité tout à l'heure, parce que le metteur en scène d'origine était parti, que James Cameron était à l'époque directeur des effets spéciaux sur ce film, et qu'il remplaça le directeur tout en étant mis de côté. Bref, en tout cas, ce n'est pas reconnu comme le vrai premier film de James Cameron, qui sera ai-je besoin de vous l'apprendre ? 3 ans plus tard, Terminator, mais en tout cas, c'est quand même signé de lui au générique. Mais c'est quoi ce film ? Eh bien, ce film s'appelle Piranha 2, puisque là encore, on est dans l'exploitation des succès. En 1978, ce cher Joe Dante avait produit un Piranha qui lui-même était déjà, je dirais évidemment, une évocation des dents de la mer dans une rivière. J'étais, ma foi, plutôt bienvenu, avec déjà le style très particulier, mi-horrifique, mi-rigolard de Joe Dante. Et donc, évidemment, on fit une suite, Piranha 2. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait trouver de mieux que des piranhas ? Eh bien, des piranhas volants, tout simplement. Piranha 2, les tueurs volants, c'était le titre en français. Il n'y a pas de titre en italien, je suis désolé. Piranha partent tout en anglais dans la langue originale. On ne sait pas trop comment Stelvio Cipriani s'est retrouvé sur la chose, mais en tout cas, il l'a été. Et on écoute un extrait de cette bande originale, Piranha 2, 24 notes, seconde. Qu'est-ce que je suis bavard. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. Arrivederci, bye bye.